Je te laisse un palace, un hôtel, une étoile, des draps de soie pour personne, des chandeliers brûlants. Oublie la liesse, il est triste l'hôtel, on s'y noie. La suite est vide et résonne de tout le feu d'avant. Le vent quand il chante, la pluie dans les ruelles, la nuit sauvage, elle te rappelle que la vie c'est dehors. Le vent quand il chante, rien ne l'empêche, rien ne l'endort. Où va vivre au soleil, fais de l'ombre à mes peines. Oh, je te laisse un palace, un hôtel, une étoile morte. Les cendres au cœur du foyer, sans flamme et sans chaleur. C'est moi le tableau couleur pastel, une nature morte. Oh, laisse-la ceux qui sommeillent, jamais ne le réveille. Le vent quand il chante, la pluie dans les ruelles, la nuit sauvage, elle te rappelle que la vie c'est dehors. Le vent quand il chante, rien ne l'empêche, rien ne l'endort. On va vivre au soleil, fais de l'ombre. Oh, la vie c'est dehors. Oh, je te laisse un palace, un hôtel, oh, je te laisse un palace, un hôtel, une étoile.
Écoutez Radio Campus 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+ sur la métropole lilloise et sur l'Artois. L'émission Quoi de neuf se poursuit. Merci à toute l'équipe hein, que vous retrouverez bien sûr la semaine prochaine. Alors, il y avait Ami, Elisa, Noah et Emeraude pour la première émission consacrée au festival Latitude Contemporaine. On les retrouvera encore pendant 3 semaines, chaque mercredi 16h-17h. On leur souhaite bien sûr un bon festival et à nos auditeurs également. Latitude Contemporaine, c'est tous les ans depuis plus de 25 ans dans la métropole lilloise. Jazz. Certains étudiants qui sont à l'écoute connaissent sans doute Bar à soupe. Bar à soupe, c'est la soupe solidaire dans l'Université de Lille. une association fondée en avril 2022 et qui intervient auprès des étudiants lillois à qui elle propose donc des soupes solidaires et puis éventuellement un peu de pain, des choses comme ça. Et donc, elle réalise elle-même ses soupes et elle les distribue devant les campus, certains campus de Lille. Je vous propose de retrouver une partie de l'équipe. C'était la semaine dernière devant la maison des étudiants, Cité Scientifique, Université de Lille, à Villeneuve-d'Ascq. Voilà, donc on va découvrir une association qui œuvre dans le domaine de la solidarité. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous pouvez présenter votre structure ?
Oui, donc c'est une association qui s'appelle Bar à Soupe, qui a été fondée en, je crois que c'était avril 2022. Donc on a fondé cette association à deux. L'idée, c'est de préparer des soupes solidaires pour les étudiants.
Voilà, donc à partir d'un besoin que vous aviez ressenti ?
Oui, en fait, le besoin, c'était au moment de la Covid. Moi, j'étais enseignant à l'université, donc on avait été sollicité par la vice-présidente Emmanuelle Jourdan-Chartier qui nous avait alerté sur les conditions de vie des étudiants et puis essayer d'imaginer des solutions qui permettaient de venir en aide. Donc le projet a germé. Nous, avant, on faisait des maraudes sur l'île et on s'est dit bah, pourquoi pas faire des distributions de soupe sur l'université, mais pas exclusivement destiné aux étudiants précaires, alors en priorité pour eux, mais aussi pour les autres, leur donner l'occasion de manger des légumes.
Donc là, on est juste devant les locaux de la maison des étudiants. Il y a des étudiants qui sont bien animés derrière et qui jouent à des jeux et qui mangent aussi. Est-ce que certains d'entre eux proposent de vous aider parfois ?
Alors il y en a, le petit problème c'est que c'est leur disponibilité. Nous on prépare les soupes en journée, la veille de la journée du jour de distribution on va les récupérer les légumes, les nettoyer, les découper, les peser. Et donc ça on le fait en journée, donc les étudiants ne sont pas tellement disponibles. On fait cuire les soupes en journée aussi le mercredi. Mais par contre, il y en a de temps en temps qui viennent donner un coup de main le mercredi midi ou le mercredi soir. Et puis, on a pour les distributions. Et puis, il y a une activité qu'Anna a démarrée depuis un peu plus d'un an, en partenariat avec les Restos du Cœur. Et tu vas peut-être parler un peu justement des ateliers qui sont faits avec les étudiants.
Oui, donc moi, j'ai un partenariat avec les Restos du Cœur pour déjà distribuer de la soupe en même temps que leur distribution à eux, qui se passe ici sur le campus. Et une fois par mois, on organise un atelier cuisine avec des bénéficiaires, étudiants bénéficiaires des Restos du Cœur. C'est un atelier qui est organisé en partenariat avec les Restos du Cœur et le Crous et nous. Et donc ça se passe bien. L'idée, c'est de montrer un petit peu aux étudiants de quelle façon on peut cuisiner les produits qui leur sont distribués par les Restos du Cœur. Et ça se passe bien, on a une dizaine d'étudiants, entre 8 et 10 étudiants à chaque fois. Et à l'issue de l'atelier, on mange tous ensemble.
Est-ce qu'il y a un planning qui est disponible pour ceux qui auraient envie de profiter peut-être de ce que vous proposez ?
Donc les distributions de soupe, c'est tous les mercredis à midi devant la MDE. Donc on est là à partir de 11h30 et on part vers 13h. Et le soir, c'est devant la résidence Gallois à partir de 18h30 jusqu'à à peu près 20h.
On a effectivement un fichier sur lequel les gens, les bénévoles peuvent s'inscrire à l'avance. Alors on envoie l'adresse du fichier à ceux qui en font la demande et ils peuvent nous contacter à notre adresse email qui est barasoupe.solidaire@gmail.com. Donc ils nous demandent et on leur envoie l'adresse du fichier partagé où ils peuvent voir les différentes activités et s'inscrire.
Est-ce qu'en région de France, vous avez d'autres points de rendez-vous ou est-ce que vous êtes en lien avec d'autres assos du même type ?
Alors en Haute-France, je pense qu'on est les seuls à faire un petit peu ce type d'activité. On appartient à un collectif qu'on appelle des acteurs de l'aide alimentaire qui a été mis en place par la vice-présidence de l'université et où on retrouve les principaux acteurs de l'aide alimentaire, gros ou moins gros. Nous, on est un petit acteur, Notre spécificité, c'est qu'on fait de la transformation. La majeure partie des autres font de la distribution, de surplus, d'invendus. Nous, on essaye de les valoriser et de faire du qualitatif en distribuant des soupes. On n'a pas les moyens pour l'instant d'être présent ailleurs. On aimerait bien, mais on est un peu limité par la capacité de production et puis par les bras qui pourraient nous aider à mettre en place des distributions. Donc, s'il y a un appel, s'il y a d'autres campus qui sont intéressés, nous, on est tout à fait ouverts à partager notre expérience et ça sera avec plaisir qu'on verrait des initiatives de ce type démarrer sur d'autres campus de l'université.
Depuis 2022, comment vous ressentez l'évolution des besoins des étudiants par rapport au fait de se nourrir ?
Comment on la ressent ? Alors, nous, le premier problème, c'est l'information des étudiants. Comment les toucher pour les informer qu'il y a ce service qui est mis à disposition. Donc, c'est vrai que les premiers temps, il y a un peu de méfiance, mais qui est légitime, comme partout, quand on les interpelle, quand ils viennent ici à la cafétéria ou autre, et bon, ils sont un petit peu méfiants. Et en fait, l'information circule surtout de bouche à oreille. Et ce que nous, on a pu observer, c'est que les gens viennent plus spontanément qu'au début. Ils sont moins méfiants, je suppose, parce qu'ils voient qu'il y a d'autres étudiants qui viennent. Et nous, on communique très peu sur l'aspect précarité, même si ça reste une forte préoccupation pour nous. En fait, on voit de plus en plus d'étudiants qui viennent, mais qui viennent surtout pour le plaisir, soit d'avoir un petit moment de partage, ça c'est nos distributions du soir, où les étudiants ont plus de temps, soit de déguster des soupes et... Par expérience, quand ils viennent, ils reviennent et ils parlent parce que nous, ce qu'on entend, c'est qu'ils trouvent que les goûts sont très bons.
Alors, chaque année, le 1er mai, il y a une fête de la soupe à Lille. Est-ce que vous y avez contribué ?
On l'a fait pendant 2 années et là, ça fait la 2e année où on ne le fait plus. Parce que, bah, d'une part, on n'y trouvait pas, nous, notre compte. Et si on y participait, c'était pour faire passer le message de Bar à Soupe. Et ça, ce n'était pas possible dans le cadre de cette fête, ce qui est très agréable par ailleurs, mais on n'avait pas tout à fait notre place. Voilà.
Alors, quels seraient actuellement les besoins, l'appel au public que vous pourriez faire ?
Alors, nous, les besoins, pour l'instant, on continue un peu sur notre lancée. À un moment, on parlait éventuellement de monter en puissance, mais c'est vrai qu'on est limité en capacité de production. L'université nous met à disposition une cuisine pédagogique à Polytech Lille, mais qui est quand même en priorité utilisable par pour les étudiants. Donc nous, notre inquiétude, ça a été que cette possibilité s'amoindrisse du fait qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui soient sur des projets à utiliser cette cuisine. Donc notre inquiétude, c'était d'avoir un local où, quand on ne peut pas préparer là, on puisse le faire sur l'université. On a fait un appel auprès du CROUS, auprès des différentes structures. On n'a pas eu de réponse. Mais c'est une demande qui reste constante et sur laquelle moi j'aimerais interpeller l'université parce que je pense que c'est quelque chose d'original de montrer qu'on peut, dans des conditions sanitaires maîtrisées, préparer quelque chose de bon, attractif et mettre en avant que c'est fait à l'université et grâce à l'université.
Est-ce que vous allez faire une soupe de rentrée pour marquer le coup ?
Alors on fait tout le temps des soupes à la rentrée. Donc nous, on a 15 recettes pour l'instant qu'on a développées. On a un petit fascicule que les étudiants et les personnels peuvent télécharger gratuitement. On a un QR code qui donne accès aux recettes. Donc on tourne sur ces recettes. On est sollicité en général à la rentrée pour participer au JVE.
Donc les JVE, ce sont les journées
d'intégration des nouveaux arrivants où les différentes associations sont présentes, expliquent ce qu'elles font. Donc nous, on est présents, c'est l'occasion de réexpliquer un peu ce que l'on fait. Et on aura certainement, alors peut-être pas une soupe spécifique, mais on tourne avec nos recettes. Et en septembre, on aura certainement une de nos 15 recettes à mettre en avant pour la rentrée, oui.
Voilà, toujours donc devant la Maison des étudiants de l'Université de Lille à la Cité scientifique.
C'est ça. Et le soir, devant la résidence Gallois normalement au restaurant du cœur, qui sont aussi, alors je ne sais pas encore pour combien de temps, à la résidence Gallois, donc sur la cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq.
Donc avec des militants, des bénévoles évidemment, hein, qui prennent un certain plaisir à aider ces jeunes, à leur donner une soupe ou un morceau de pain, voilà, bonjour.
C'est même pas un certain plaisir, c'est un plaisir certain.
Voilà. Ça fait longtemps que vous participez à ce projet de soupe ?
Un an à peu près.
Et donc là, pendant les vacances, vous allez vous ennuyer ou pas ?
Oui, complètement.
Bon, en tout cas, la rentrée va se préparer, j'imagine. Vous allez vous ressourcer?
Ben oui, je ferai des soupes à la maison.
Et vos petits-enfants apprécient, vos enfants?
La soupe? Oui. Ben, ils sont pas avec moi, mais je leur ai donné les recettes.
Radio Campus 106,6 FM, aussi 106, mais aussi campusil.com et puis en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Alors sur l'Artois, ça tombe bien, je vais vous présenter un lieu qui s'appelle le Toit commun, un lieu de l'économie sociale et solidaire, et qui organise, enfin qui accueille des structures, des associations, des artistes pour des événements, et on parlera peut-être d'un de ces événements juste après.
Je m'appelle Marie-Charlotte Voetz, je travaille au Toit commun depuis le 1er février 2025. Mais avant ça, j'étais déjà dans l'équipe qui a créé le lieu, puisque je suis dans l'association fondatrice depuis 2020.
Le projet du Toit commun ?
Notre projet, il est assez multiple. L'idée de base, c'était quand même de créer un lieu pour permettre de parler d'économie sociale et solidaire avec le grand public, donc d'avoir un lieu ouvert à tous et aussi un lieu qui permette à plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire de se retrouver, de se rencontrer et de monter des choses ensemble. Il y a aussi l'idée d'accompagner des projets sur le territoire qui se montent en économie sociale et solidaire. Donc à un moment, il y a eu l'idée de faire un fonds de soutien. Finalement, c'est plutôt devenu ce lieu qu'on a vu plus grand, avec un espace grand public et un espace professionnel.
L'économie sociale et solidaire, bon, c'est quelque chose qui est connu par les gens qui sont dans ce vaste mouvement, on va dire, hein. Mais pour le grand public, peut-être qu'il y a besoin d'éléments concrets, de l'action au quotidien, de ce à quoi il peut peut-être contribuer.
L'économie sociale et solidaire, pour nous, l'important, c'est de remettre l'humain au centre de la question économique, en opposition à l'économie actuelle dominante qui met plutôt les profits et l'enrichissement personnel au cœur de son activité économique. Nous, l'objectif, c'est vraiment de dire que l'humain et les projets collectifs, faire du bien autour de soi, faire du bien à la planète, c'est ça qui doit motiver le fait de créer des projets lucratifs. Concrètement, l'économie sociale et solidaire en France aujourd'hui, ça représente quand même majoritairement des associations, qu'elles soient petites, sans salariés, ou des grosses associations, ou des associations qui travaillent sur la question de l'insertion professionnelle. Et puis à ça vient s'ajouter les coopératives, les mutuelles, certaines banques. Donc c'est un mouvement quand même qui est très vaste. Et on est souvent en lien avec l'économie sociale et solidaire sans le savoir.
Donc le Toit commun regroupe notamment des entreprises, des associations. Parmi celles-ci, j'imagine qu'il y a un filtre pour que vous accueilliez celles qui correspondent à ce que vous venez d'expliquer en termes d'économie sociale et solidaire.
Oui, nous, on se range derrière les marqueurs tels que définis dans la loi 2014, c'est-à-dire la lucrativité limitée, une gouvernance horizontale, un ancrage territorial notamment. Alors la loi 2014, c'est très bien, hein, elle a posé les jalons d'économie sociale et solidaire, mais c'est vrai que nous, on veut aller un petit peu plus loin que ça, quoi. On est vraiment sur des valeurs que l'on revendique et que l'on véhicule à travers une charte qu'on a écrite il y a déjà 5 ans maintenant.
Donc vous êtes ici, le toit commun basé et implanté à Lens Centre. Est-ce que ce lieu existe sous d'autres formes dans d'autres régions de France ? Est-ce que vous êtes en Hauts-de-France l'un des rares ou il y en a déjà plusieurs peut-être ?
Alors un projet comme le toit commun, exactement comme le toit commun, ça n'existe pas. Parce que le projet, il est l'émanation d'un groupe de personnes à un instant T, sur un territoire précis. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut surtout pas faire comme nous. Parce que, en fait, nous, on a fait avec les matériaux qu'on avait, les personnes qu'on avait, le contexte qu'on avait. Ceci dit, quand on a créé le toit commun, il y a eu du benchmark qui a été fait, des voyages qui ont été faits sur d'autres endroits. Il y avait par exemple les Écosolis de Nantes. À Paris, il y avait aussi une initiative qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, mais qui pourrait ressembler un petit peu à ce qu'on faisait. Enfin voilà, il y a eu un petit tour d'horizon. Et depuis ici, sur les Hauts-de-France, on voit qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été lancées, que ce soit avant ou après, notamment autour de la question des tiers-lieux, mais où il y a des différences, notamment par exemple le fait que nous avons acheté le bâtiment. Déjà, ça nous met quand même dans un groupe d'acteurs beaucoup plus restreint.
Voilà, donc une acquisition immobilière qui est un patrimoine maintenant, qui est prévu pour durer, et l'association, j'imagine, qu'il faut aussi qu'elle puisse l'entretenir et économiquement l'exploiter.
Oui, donc en fait, on a une structuration un petit peu complexe que nous, on appelle la fusée, parce qu'en fait, il y a ces différents étages qui se superposent les uns aux autres. C'est vrai que ça a commencé avec une association dont je parlais au début, une association locale pour le développement de l'économie sociale et solidaire sur le bassin minier du Pas-de-Calais. Donc c'est une association un peu restreinte de 12 membres qui a porté en fait ce projet depuis 10 ans et pour le voir naître. Mais on a créé après d'autres structures pour l'achat du bâtiment. On a créé une société civile immobilière dans laquelle il y a plusieurs acteurs aussi qui se sont impliqués. Et puis pour la gestion quotidienne du lieu, on a créé une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, dans laquelle aujourd'hui on a 65 sociétaires, dont 25 organisations de l'ESS, le département du Pas-de-Calais et l'agglomération de Lens-Liévin.
Donc il y a une forme d'ingénierie, de compétence des personnes qui gèrent ce lieu nécessaire, forcément.
Bah forcément qu'on a des groupes qui se constituent autour de la question des finances, évidemment, parce que c'est de la gestion, il faut que le lieu il fonctionne. La SCI rembourse l'emprunt l'idée, c'est quand même que la location des bureaux, donc les locations avec bail, hein, les locations longue durée de ce que nous on appelle les habitants, c'est-à-dire les associations qui viennent ici mettre leur siège social ou mettre une antenne locale, il faut que ça puisse rembourser l'emprunt bancaire qui a été fait pour l'investissement complet du lieu. Donc sur la coopérative, forcément il y a aussi l'idée que la coopérative se stabilise financièrement. Aujourd'hui, la coopérative, elle fonctionne avec le restaurant, le bar, le magasin de l'ESS et puis des locations de salles ou des locations de bureaux pour des permanences. Et donc tout ceci doit notamment contribuer à payer du temps de travail. Aujourd'hui, on est en mesure d'accueillir qu'une seule salariée qui est moi-même, mais il y a quand même l'envie d'avoir plus de salariés puisque quand même il y a du travail pour plusieurs personnes ici.
Donc on voit ici cet espace, il y a un bar avec des clients et ils font partie de l'environnement lensois, hein, donc ils passent, ils boivent leur café, etc. C'est un bar ouvert à tous.
Oui, oui, on est vraiment un bar ouvert. C'est vrai qu'il y a parfois des gens qui nous demandent s'ils peuvent rentrer boire un café, parce que c'est vrai que de l'extérieur, on ne fait pas très bar, quoi. C'est vrai que la vitrine, on l'a consacrée au magasin. Et puis, ce sous-titre, Maison de l'économie sociale et solidaire, qui est écrit sur notre enseigne, bah, peut-être qu'il n'est pas toujours très clair pour les personnes qui passent. Mais de plus en plus, on commence à être identifié comme un lieu où on peut venir manger, comme un lieu où on peut venir boire un café, boire un verre. Maintenant, on fait aussi, enfin voilà, on fait des concerts, on fait des ciné-débats, enfin, on ouvre au public et de plus en plus, on est identifié et on a aussi nos habitués.
Mmh. On entend derrière, effectivement, proximité. Hein. Sinon, la vitrine présente des objets. Donc,
Oui, donc ici, c'est un magasin de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que toutes les structures avec lesquelles on travaille, les produits qu'on vend, c'est des produits qui se réclament de l'économie sociale et solidaire. Donc des associations d'insertion, par exemple, sur les tissus upcyclés. On travaille avec Vestalie à Liévin. On travaille avec les Anges Gardins sur des produits transformés, issus aussi du travail de l'insertion sur le maraîchage. Après, on a du commerce équitable, on a beaucoup de produits artisans du monde, que ce soit en alimentaire ou en artisanat. Et puis, on travaille aussi avec Magic Arité, qui fabrique des produits bio avec une association aussi sur Bully-les-Mines.
Voilà, donc le toit commun est sans doute adhérent à des structures de tout ce qui est solidaire en région. Est-ce que vous avez des mouvements auxquels vous êtes attachés et auxquels vous contribuez?
Donc nous, on est adhérents de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On est au conseil d'administration même d'ailleurs de la CRES, dans le collège alors qui change de nom actuellement, mais sur les initiatives territoriales et locales, on est plutôt sur cet aspect-là. Et nous, au sein de la CRES, ce qu'on défend, c'est notre ancrage local et notre dynamique locale. On est aussi adhérent à l'APES, les acteurs pour une économie solidaire, qui est aussi un réseau régional des acteurs de l'économie solidaire. Et on a des contacts réguliers avec l'APES, qui est ici sociétaire de la coopérative, qui a des bureaux et qui organise des événements, des choses ici. Et nous, par délégation, c'est pas vraiment officiel, mais par délégation, on fait de l'animation territoriale pour eux, puisque quand il y a un acteur du territoire qui cherche à être accompagné sur les questions d'économie sociale et solidaire et qui va saisir l'APES, l'APES va nous l'envoyer, en fait. On travaille ensemble sur la question de la représentation et de l'animation.
Et au niveau des animations, justement, parfois, je vois des conférences qui se passent ici.
Sur les animations, donc on fait des concerts, on essaie d'avoir un concert par mois. On essaie aussi d'avoir un ciné-débat par mois sur des thématiques assez porteuses. Par exemple, en fin février, on a fait un ciné-débat sur la sécurité sociale de l'alimentation. Après, on fait des conférences. Donc là, on a un cycle en ce moment autour de l'extrême droite. Donc il y en a deux conférences, une en mars et une en avril, où on invite un historien et un sociologue sur la question de la montée de l'extrême droite en France. Et après, comme autre animation, donc on a des choses un peu plus à la marge. Là, on accueille un spectacle de danse dans le cadre du festival La Beauté du Geste avec Culture Commune. On a déjà fait des spectacles d'humour, on a déjà fait du théâtre, reçu des pièces de théâtre, puisqu'on a des domiciliés ici au Toit commun qui sont des compagnies de théâtre. Donc voilà, on a des initiatives un peu plus à la marge. On accueille aussi une expo par mois. Et tout ça est organisé par le groupe de bénévoles du Toit commun.
Voilà, donc si des associations, des structures veulent s'intégrer au lieu, comment elles font ?
Alors, il y a différentes façons de s'intégrer. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de structures qui nous ont rejoints par la location de bureaux, puisque donc sur nos 1000 mètres carrés, on a une grosse vingtaine de bureaux qu'on loue. Mais aujourd'hui, on n'a plus de place pour louer des bureaux. On accueille des permanences. On a des associations qui viennent une fois par semaine ou deux fois par semaine louer un bureau, un espace de permanence pour recevoir des publics ou pour mener leurs actions localement. Après, ben, les associations qui adhèrent au projet, ou les associations d'ailleurs, ou les autres coopératives, on a aussi des coopératives, où des personnes individuelles peuvent rejoindre la coopérative en prenant une part sociale qui s'élève à 100 euros. Mais c'est une fois, on le fait qu'une seule fois, hein, c'est pas chaque année comme une adhésion. Et puis après, bah, on peut venir aussi s'impliquer ponctuellement pour monter un événement, pour proposer une animation. Voilà, il y a plein de façons de s'impliquer différemment, de rejoindre un groupe de travail, de rejoindre une dynamique. Il y a énormément de choses à faire. Et en fait, ici, c'est un lieu. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'ici, on pose les conditions matérielles pour permettre à des projets, à des envies de voir le jour.
Donc, si on veut vous rejoindre, il y a un site web, un contact?
Oui. Donc, on a un site internet, donc letoitcommun.org. Vous pouvez nous écrire à l'adresse contact@letoitcommun.org. Et puis, vous pouvez venir nous voir aussi au 15 rue Lannoy. On est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
Donc, je viens vous dire un petit bonjour.
Bien sûr, vous en verrez long.
Comment allez-vous?
Ici, comme j'ai expliqué ici, quand je vais là, je ne connaissais pas avant, et je vais ici. Ici, c'est tout par sapin. Tout le monde m'estime bien, je les estime bien.
Donc un petit café, ça fait du bien parce...
Ah ouais? C'est ça que j'aime bien, parce qu'ici, je ne connaissais pas. Maintenant, comme je vous ai dit, je connais. Mais au moins, ils ont une bonne mentalité. Pour un petit café, sans problème. On dispute pas, on sent des conneries. De temps en temps. Bon, mais ils en sortent toujours.
Ouais, vous aimez bien rire, hein?
Bien rire, et j'aime bien parler avec les gens. Bah, comme avec vous.
Ouais, c'est gentil.
Et c'est comme ça. Mais ici, c'est super bien. Bien accueilli. La politesse envers tout le monde. Envers moi, et moi, je suis la politesse envers eux. C'est ça qui compte.
Voilà. Donc, un point, on va dire, où on peut poser un peu, discuter, voir des gens, bien et sûr. Puis profiter de l'ambiance, c'est quand même beau.
Bien sûr, hein. Bah, moi, quand il y a des gens, bonjour, monsieur, dame, quand il y a des gens qui sont à table ou quoi, parce que là, j'étais quand même là, mais je pars avec tout le monde, moi.
Bon, eh bien, merci en tout cas d'avoir discuté un peu avec
vous. Problème. Allez, chef, tu rends ma café pour monsieur, s'il te plaît.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, donc Lens, eh bien voilà, on a parlé de cette maison de l'économie sociale et solidaire qui se situe dans la rue Lannoy, une rue très très commerçante, il y a beaucoup de monde qui passe et il y aura peut-être beaucoup de monde pour une conférence qui va avoir lieu vendredi à 17h30 et que nous allons découvrir dans quelques instants sur Radio Campus Lille. We'll be right back. Donc je vous parlais d'un événement qui aura lieu ce vendredi à Lens, au Toit commun, à 17h30. Il s'agit d'une conférence, j'imagine débat aussi, hein, organisée par l'Université populaire Ch'ti Guevara. Nous avons en ligne M. Jean-François Dejour, donc, qui est responsable de cette université populaire. Bonjour.
Oui, bonjour et merci de nous inviter.
C'est un plaisir. Donc en fait, cette conférence a quel objectif ?
C'est de mettre un peu à niveau l'information qu'on peut avoir sur l'affaire Georges Abdallah, puisque c'est une affaire d'État quasiment, hein. Ça fait plus de 40 ans qu'il est en prison en France, c'est quasiment le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Il n'est pas le seul d'ailleurs à être un prisonnier politique à défendre la cause palestinienne, il y en a quelques milliers en Palestine, mais en tout cas lui c'est le plus ancien, et il y a beaucoup de gens, de militants, de forces progressistes qui ne connaissent pas du tout le dossier ou qu'on en a vaguement entendu parler. Donc en fait là, l'idée c'est à trois voix, puisque on invite deux personnes, on en reparlera certainement, mais à trois voix on va essayer d'instruire un petit peu les choses, parce que c'est un dossier qui a un volet juridique très mince et puis un volet politique énorme.
Alors je sais que l'ancien maire de Grenay, donc dans le Pas-de-Calais, hein, Christian Champiret, s'empare régulièrement de cette affaire et essaye de mettre, en évidence l'importance de cette personne jusqu'à en faire un citoyen d'honneur, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. En 2012, c'était d'ailleurs un moment où on a vraiment cru en sa libération, puisque la justice française avait donné son feu vert. Et puis, coup de théâtre début 2013, c'est vraiment des histoires dignes d'un film d'espionnage, mais il est libérable. Et puis, sa famille, ses amis, ses frères sont en route vers Beyrouth pour aller l'accueillir à l'aéroport, et en chemin ils apprennent que tout a été annulé, en fait tout était suspendu à la signature d'un arrêt d'expulsion qui devait être signé pourtant par quelqu'un qui aimait bien habituellement expulser les gens, c'est Manuel Valls, ministre de l'Intérieur en 2013. Le gouvernement, c'est le gouvernement Fabius et Hollande, hein, et malheureusement sous pression, on le sait maintenant, de la diplomatie américaine, c'est même Hillary Clinton qui est intervenue, elle était secrétaire d'État à l'époque, tout a été bloqué alors que la justice avait donné son feu vert, parce que Georges Abdallah est libérable en fait depuis 1999, donc alors, déjà en 2012, il avait fait un peu de rab.
Quand on parle de prisonnier politique, il y a le mot politique, alors forcément la politique s'en mêle et la France, elle a des relations avec d'autres pays et sans doute qu'aussi ces pays font pression.
Tout à fait, oui, il y a deux pressions majeures. Une pression qui émane d'Israël. Alors en fait, les faits qui lui sont reprochés, on va détailler tout ça par le menu, mais finalement, Georges Abdallah, c'est un jeune instituteur en fait en 1972 dans le nord du Liban, une partie très très pauvre du Liban, et puis sa conscience politique se forge au contact de ceux qui défendent la cause palestinienne, ce qu'on appelait à l'époque les fédayines, qui se sont d'ailleurs, qui s'étaient réfugiés en Jordanie jusqu'en 71 et puis qui vont être chassés pour arriver au Liban. Donc sa conscience politique va être forgée donc par ce milieu-là. Au passage, c'est intéressant de relever que les forces militantes politiques soutenaient la cause palestinienne, c'est l'OLP, qu'au sein de l'OLP, il y a le Fatah, il y a le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui sont des formations laïques. Hein, c'est ça que les gens ont peut-être besoin d'entendre à nouveau. Ce sont des laïcs de gauche et même des marxistes en ce qui concerne Abdallah. Bon, et donc, toute cette conscience politique va le décider après avoir été blessé, puisque Israël va envahir une première fois le Liban en 78 et une deuxième fois en 82. D'ailleurs, l'OLP va devoir quitter le Liban à ce moment-là. Et le combat d'Abdallah va s'exporter, si je puis dire, sur le continent européen avec Alors, une période qui commence là, au début des années 80, en fait en 82.
D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement encore maintenant ?
Eh bien, au départ, c'est une affaire assez simple. Il est détenteur, il a arrêté en 84, et il a des faux, à Lyon, il a des faux papiers. Bon, donc là, c'est quand même pas 40 ans de prison. Ensuite, il est en prison en 84, il va avoir un procès qui n'aura lieu qu'en 87. Et opportunément, on retrouve dans un logement qui était à son nom à Paris l'arme qui a servi à exécuter deux diplomates. Alors c'est le cœur du dossier. Il est donc impliqué, mais que de complicité de meurtre. Il n'était pas. C'est pas lui qui tenait l'arme. On sait d'ailleurs que les deux diplomates en question, de l'aveu même du patron de la DST française de l'époque, c'était un. Donc c'est un diplomate américain, c'est en fait un attaché militaire de la CIA haut gradé, et le diplomate israélien, c'est un responsable du Mossad, donc en fait c'est des militaires. Et donc on est dans le... Et c'est pas lui qui a tiré, c'est une femme qui a tiré sur le responsable du Mossad à Paris, donc tout ça en 82. Mais l'arme qui a servi à exécuter ces deux hommes est retrouvée opportunément dans un logement dont il était locataire.
Bon, voilà. Donc je pense qu'on ne va pas développer complètement, on va laisser pour les gens qui veulent vous retrouver. Hein. Donc c'est ce vendredi, 17h30, au Toit commun à Lens. Donc l'adresse, on peut la rappeler, c'est 15 rue René Lannoy.
Voilà.
Et donc, peut-être ce sera l'occasion pour les gens de se rendre compte de ce qui est le plus ancien prisonnier, on va dire politique, hein, en France, enfermé en France, on peut même dire la prison.
C'est ça, les prisonniers politiques qui sont détenus en Israël, c'est un petit peu plus de 20 ans, mais c'est 40 ans, non, on bat tous les records.
Ben, ouais.
Bon, évidemment, on ne va pas parler que de Georges Ibrahim Abdallah, puisque la cause qu'il a défendue et qu'il a incarnée, c'est la cause palestinienne. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, comment ne pas parler de tout ça? Et on croisera nos discussions avec Christian Champiré. L'idée étant en même temps de proposer aux gens qui seront là d'ajouter un petit mot. On proposera une lettre qui sera adressée à Georges Abdallah à l'issue de la réunion. Donc ceux qui seront là pourront s'associer à ce courrier pour lui expliquer. Enfin, il a besoin évidemment d'être soutenu moralement, mais enfin aussi de se rendre compte que la cause qu'il incarne toujours. Il n'a pas pris sa retraite, hein, Abdallah. Il a plus de 70 ans, mais il n'a pas pris sa retraite. Ça reste un militant. Il a besoin de savoir qu'il est entouré par des militants qui continuent à défendre une cause assez universelle, en fin de compte.
Alors, aussi, si la situation politique actuelle favorisera ou non sa libération, ça, ce sera la question à laquelle il sera peut-être répondu rapidement.
Le 19 juin, en fait, c'est l'actualité de tout ça, c'est que le 19 juin, le énième appel va donc recevoir une réponse. Alors, on pourrait s'attendre à une réponse du côté juridique positif, comme en 2012, et on verra si le blocage politique continue à bloquer le dossier, ou si peut-être que 2019 sera l'année de sa libération.
Eh bien, merci Jean-François Dejour. Donc rendez-vous ce vendredi 6 juin à 17h30, donc à Lens, 15 rue René Lannoy, au Toit commun. Mmh. Vous en saurez bien sûr beaucoup plus que ce qu'on a pu en exprimer ici sur cette antenne, mais on a l'occasion aussi dans d'autres émissions de revenir sur ce sujet, notamment l'émission du mercredi à 18h30 qui s'appelle L'heure de le maître. Merci beaucoup Jean-François Dejour.
Oui, merci Radio Campus. À bientôt.
Séquence de cette émission Quoi de neuf sur Radio Campus Lille, eh bien, elle concerne quelqu'un qui vient de recevoir un prix. On va l'écouter tout de suite. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Lolita Aboa, qui est lauréate du prix de la femme du numérique du concours ingénieuse de la CDEFI. Voilà qui en jette un peu, hein. Bonjour, Lolita.
Bonjour, je suis très contente d'être là.
Peut-être on pourrait préciser déjà ce qu'est la CDEFI.
Alors, la CDEFI rassemble tous les ingénieurs de France et les représente.
Donc, il y a eu au niveau national une sélection qui a été faite et vous avez été présentée comme lauréate.
Oui, pour la petite histoire, je m'étais positionnée pour élève ingénieur. Et donc, j'avais été sélectionnée parmi, on va dire, à peu près 1000 candidatures nationales. Et on a été 4 retenues. Donc, moi, j'avais quitté la cérémonie. Et en fait, j'ai été rappelée pendant que je mangeais un burger juste à côté pour me dire que j'ai gagné ce prix.
Donc, évidemment, ça fait plaisir sur le moment. Mais après, ça donne aussi des possibilités, ça ouvre des portes.
Ça ouvre des portes et de la crédibilité aussi pour porter le discours et aussi ce que je représente. Donc, moi, j'en profite un petit peu pour mettre en valeur les femmes ingénieures et surtout démystifier et vulgariser ce métier, ce que je fais depuis toujours. Donc, c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur.
Donc, c'est vrai que les femmes en général, dans les disciplines scientifiques, dans les mathématiques, dans la physique, elles ont été sous-représentées depuis longtemps. Et là, on pense que le train est pris maintenant en marche et que ça fonctionne.
Alors, ça ne fonctionne pas parfaitement. Les chiffres qui ont été communiqués pendant la cérémonie, c'était qu'il y a encore 30% de femmes dans le supérieur qui ne continuent pas dans les matières scientifiques, alors qu'au lycée, elles ont quasiment de meilleures notes que les garçons. Et donc, la question est de savoir pourquoi. On sait qu'Elisabeth Borne vient de porter un projet à ce sujet. Et moi, mon avis sur le sujet, c'est qu'il y a un blocage chez les femmes, chez les jeunes filles, qui vient déjà du fait de rien que du métier d'ingénieur qui peut faire peur, qui est un concept assez flou, quelque part. On dit ingénieur, mais ça regroupe une infinité de métiers. Et il y a aussi le manque de confiance des femmes en elles-mêmes. Et d'où vient ce manque de confiance? C'est le fait que, déjà, on ne les inclut pas assez dans l'histoire des sciences. Quand moi, j'étais sur les bancs de l'école, j'ai fait un bac ES, j'ai même failli faire un bac L. Je sais que quand on parlait de maths, quand on me parlait de concepts, vous voyez, Pythagore, Thalès, quand j'arrive en école d'informatique et qu'on me parle de Yann LeCun, des premiers ordinateurs, c'est très rare qu'on mentionne un nom de femme. Et donc, je pense que quelque part, il y a une intériorisation du discours chez les jeunes filles qui est, c'est pas pour moi, ça n'a pas été créé par moi ni pour moi. Et donc, finalement, allons faire quelque chose d'un petit peu plus accessible.
En même temps, quand on voit Marie Curie, par exemple, elle a fini par être connue. Donc, il y a moyen aussi de tirer de cette expérience l'idée qu'on peut avoir sa place.
On peut avoir sa place. Pour le moment, il faut que ça vienne des femmes elles-mêmes, des jeunes filles elles-mêmes. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment ce discours de même si vous n'avez pas l'impression d'être talentueuse, d'être faite pour ça. Moi, c'était mon cas. Initialement, j'ai un parcours même littéraire. Je ne suis pas très forte en maths. Je ne suis même pas particulièrement passionnée. Je n'ai pas fait de prépa. Je n'ai pas eu de parents qui m'ont parlé des métiers d'ingénieur. Et pourtant, j'en suis arrivée là. Donc, c'est possible.
C'est une question de volonté ou d'intelligence ou les deux?
Pas du tout d'intelligence. Je pense que même moi, encore aujourd'hui, j'ai peut-être encore ce syndrome de l'imposteur. Donc ça n'a rien à voir avec l'intelligence. D'ailleurs, qu'est-ce que l'intelligence? C'est un débat philosophique. Bon, après, est-ce que la volonté seule suffit? Je ne sais pas. Mais se donner les moyens d'y arriver, c'est-à-dire déjà la discipline, la rigueur, et se dire qu'il n'y a pas d'autre voie possible que de terminer ce qu'on a commencé. Dans le scientifique, une fois qu'on a osé faire le pas, c'est ce que je recommande.
Est-ce que plutôt qu'intelligence, on ne pourrait pas dire lucidité? C'est-à-dire, il y a un objet, il y a une solution à trouver, ben, on va la trouver parce qu'il y a des pistes qu'on peut imaginer et au final, on y arrive.
Exactement, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ça a été mon cas. Le moment où moi je rencontre les sciences, c'est pas parce que j'ai pensé science, c'est parce qu'il y avait une problématique que je voulais résoudre. C'était comment communiquer des informations qui sont le plus justes possible. Parce qu'avant, j'étais journaliste. Et donc, c'était comment avoir accès à de plus grandes données pour en extraire quelque chose de beaucoup plus robuste et de plus... finalement pertinent. Et il se trouve que les sciences ont été une voie de réponse à cela. Donc pour toutes les jeunes filles qui ont une problématique, qui ont une volonté, un objectif, et qui à un moment rencontrent les sciences sur leur chemin, c'est ce que j'ai à leur dire, c'est ne faites pas un détour, osez affronter le monde des sciences, et il vous le rendra.
Donc l'univers de la recherche est infini, il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été réalisées, il y a des données, il y a des datas. Est-ce que vous vous êtes emparé de ce qui existait déjà pour trouver vos solutions à des problèmes actuels ?
Oui, je n'ai pas encore fini, mais oui, j'ai découvert le monde des données. Et d'ailleurs, c'est ce vers quoi je veux me spécialiser, parce que je rappelle que je suis encore en dernière année d'études. Mais oui, le fait de pouvoir, via le passé, pouvoir prédire le futur et pouvoir aussi voir plus large et même trouver des causes, ou en tout cas des relations entre plusieurs événements qu'on n'aurait pas fait peut-être un manu, je trouve que c'est splendide.
La question de l'intelligence artificielle se pose actuellement. Alors, on peut dire que c'est la pire ou la meilleure des choses. Son usage, bien sûr, est ce qui va déterminer si le potentiel de l'intelligence artificielle peut être au service de l'homme ou non.
Oui, il y a toujours cette question éternelle. Moi, je ne considère pas l'intelligence artificielle comme quelque chose de négatif. Pour moi, je le considère comme un outil, comme un couteau. Et en fait, ce couteau, soit on va s'en servir pour faire des choses utiles comme couper un gâteau, comme nous faciliter la vie, mais de manière intelligente, soit on va finalement l'utiliser pour décharger tous nos problèmes et finalement manquer, régresser dans la créativité. Et ça, ce serait quelque chose de dommage. Donc oui, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à tout prix à maîtriser, que ce soit homme ou femme. Il faut oser plonger dedans, aller regarder du côté des algorithmes pour justement être mieux prévenu des dérives potentielles.
Donc quand on interroge les intelligences artificielles basiques sur des problèmes dont on veut une solution facile, on peut trouver beaucoup de choses intéressantes, mais on doute toujours... de la réalité, de l'intérêt, de la subjectivité de ce qui est proposé, voire même de l'honnêteté intellectuelle de ce qui est écrit, parce que ça vient de sources dont on ne connaît pas toujours la provenance.
Il y a les sources et il y a aussi le fait que, bien des fois, la réponse qui va nous être donnée est aussi basée sur la personne qui la pose. C'est-à-dire qu'en fonction de qui demande, il y aura une adaptation du contexte pour... finalement correspondre à ce que l'utilisateur attend. Ça peut être le cas notamment pour ChatGPT il se base sur la mémoire des conversations. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que tout le monde doit se pencher sur la manière dont ces outils sont codés pour avoir le recul nécessaire de replacer dans un contexte toutes les réponses qui se passent et aussi pouvoir mieux habilement poser nos questions ou nos problèmes.
Donc on n'est qu'au début de cette aventure, évidemment, on envisage le meilleur et le pire. Évidemment, là j'ai une revue qui s'appelle Le 1, le journal 1, et donc il a publié un spécial dictature. Donc dedans, on retrouve bien sûr 1984, et on retrouve des gens qui disent que voilà, on est dans un état actuel où les risques de dictature s'amplifient, et que l'intelligence artificielle, enfin, je pense par exemple à ce que Trump a proposé, c'est-à-dire vérifier tout ce qui a été publié par des étudiants qui veulent accéder aux études aux États-Unis, et tout ça, c'est déjà sur Internet. Donc la compilation de tout ça, j'imagine qu'elle pourra être faite par l'intelligence artificielle sur des datas qui appartiennent aux opérateurs, etc. Donc il y a à la fois ce risque qui est présent, mais à la fois ce potentiel qu'il serait dommage d'ignorer ou de négliger.
De toute façon, on ne peut plus l'ignorer. Peut-être qu'on a essayé pendant quelques années, surtout en Europe, mais si nous, par exemple, on l'ignore en Europe, ça prend le large que ce soit en Asie ou en Amérique. Donc il faut au contraire aller au-devant du sujet. Et moi, j'appelle plutôt à, on va dire, une conscience collective et individuelle, que chaque individu qui utilise ces outils fasse vraiment l'effort de comprendre comment cet outil a été codé, quels sont ses biais, quelles sont ses limites, et d'avoir du recul à chaque application et utilisation de ces outils.
Est-ce que donc le grand public peut faire confiance aux ingénieurs pour valider ou remettre dans l'esprit que vous venez de mentionner, de bienveillance et de service du public, tout ce qui est produit actuellement et dont on ne sait pas trop ce qui est le bien, le mal. Enfin, on est en ce moment quand même sur des choses assez bizarres où le mal et le bien réinterviennent comme notion qu'on avait un peu perdu de vue.
La notion de bien et de mal, c'est quelque chose qui est défini en commun par la société. Et c'est vrai que ces IA portent des questions éthiques au-devant de la scène. Et donc, logiquement, ce qu'il faudrait faire, c'est tous s'asseoir autour d'une table et discuter sur quelles sont les nouvelles normes, qu'est-ce qu'on accepte ou pas, et qu'on s'accorde à l'échelle internationale. Bon, c'est quelque chose d'un petit peu utopiste. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, pour moi, il ne faut absolument pas faire confiance aux ingénieurs uniquement. Chacun a son rôle à jouer. Pourquoi ? Parce que déjà, un ingénieur, lui, il est responsable du développement, mais c'est la société pour laquelle il travaille qui protège ou pas la manière dont a été développé son outil. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe en interne, un biais quelconque, l'utilisateur ne sera pas forcément au courant, ni même la boîte, avant de faire une évaluation. Je pense à, par exemple, Amazon qui s'était rendu compte qu'il y avait un biais genré dans ses processus d'emploi. Et donc, il faut qu'il y ait des outils, enfin des personnes externes, et que chaque personne teste de son côté et essaie de contribuer à son niveau. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, en tant que femme du numérique, j'ai été élue femme du numérique, mais tout le monde doit être impliqué dans le numérique à son petit niveau pour justement ne pas faire confiance uniquement à une personne externe comme un ingénieur, même si j'en suis une.
Alors Lolita, vous êtes à Polytech Lille. Dans cette université de Lille, il y a énormément de personnes qui travaillent dans des domaines différents. Est-ce qu'on peut les associer à la validation ou à la réflexion sur une certaine éthique? Je pense aux philosophes, aux sociologues et bien d'autres, même à des historiens qui peuvent aussi avoir la mémoire sur des choses qui se sont passées et qu'on ne voudrait pas voir se reproduire. Donc voilà, l'IA, il faut quand même s'en méfier, s'en emparer et fixer un cadre éthique. Et peut-être la communauté justement d'une université, la communauté universitaire, peut réfléchir et peut-être mettre des bornes.
Ah oui, pour moi, j'appelle tout le monde à réfléchir, même au-delà même du cadre des ingénieurs. C'est que c'est vraiment aussi en fonction de l'expérience que chacun a avec ses IA. Il faut aussi, ça commence à se faire, qu'on enseigne aux gens à comment s'en servir plutôt que d'en avoir peur, parce que l'ignorer n'est que remettre le problème à demain.
Est-ce que pour vous, un événement sur l'IA et la façon de s'en emparer avec plusieurs acteurs de la communauté scientifique, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être réalisé sur une université comme Lille, faire un gros événement avec ce focus-là?
Ah oui, ça pourrait être très intéressant. Un événement qui, si il est concret, c'est-à-dire avec un objectif clair de peut-être porter à une autorité supérieure les recommandations, en tout cas les pensées et le positionnement des scientifiques de Lille pourrait être très intéressant et envisagé, oui.
Et bien voilà, c'était Lolita Alba, donc sur Radio Campus Lille, il est 18h.